Hare Krishna. For coming. Shall we continue reading from Chaitanya Charitamrita?
Yeah.
So yesterday we were discussing how Sri Chaitanya Mahaprabhu asked Ramananda Rai what is the most unbearable distress.
Donc hier on parlait de Ramananda Rai qui expliquait ce que c'est la pire détresse qu'on peut expérimenter. Et Ramananda Rai a répondu que c'était la séparation des dévots de Krishna. Il dit qu'il n'y a aucune souffrance intolérable qui peut égaler ce genre de détresse. Et donc on a un petit peu parlé de la compagnie des Vaishnavas est très importante. C'est un des points les plus importants de notre vie. Donc Mahaprabhu maintenant il continue et il pose plus de questions.
Mukta madhye kona jiva mukta kori mani Krishna prema yandra shay mukta shiromani.
Sri Chaitanya Mahaprabhu demanda de tous les êtres libérés qui devrait être accepté comme le plus grand.
Ramananda Rai replied.
Et Ramananda Rai répond.
Anyone want to have a guess?
Est-ce que quelqu'un veut deviner de tous les êtres libérés?
Il
y a beaucoup de gens libérés et le Bhagavatam explique qu'il y a beaucoup de sortes de personnes qui sont libérées, mais de toutes les personnes libérées ou qui sont au-delà de l'énergie matérielle, qui est considéré le plus grand? Lui, il a dit Narada Muni.
Lord Shiva, okay, you're all saying personalities. We need a category.
Il dit non, c'est pas une personnalité, c'est une catégorie.
What is attached?
Et Prabhu lui a dit quelqu'un qui est attaché à Krishna.
Krishna prema yandra say mukta shiromani. That he who has, or she who has love for Krishna, has attained
the
topmost liberation.
A atteint la plus haute libération.
So, in the Vedic system, there are
dans le stages. Système védique, il y a quatre stades.
Arka, Kama and Moksha. So first, one practices some kind of religious codes.
Donc d'abord, on pratique une forme de code religieux. Après, si on fait ça bien, on a Kama, c'est-à-dire de plaisir matériel. Artha, ça veut dire que de ces plaisirs viennent beaucoup de facilités. Dans notre vie.
Mais
une fois qu'ils ont toutes ces choses, tous ces plaisirs et toutes ces facilités, ils se rendent compte qu'aucune de ces choses ne les a rendus heureux. Et donc, ils cherchent moksha, au-delà. Qu'est-ce qui est au-delà de ce monde? Donc ça, ce sont les quatre objectifs de la vie humaine. Chaitanya Mahaprabhu a dit en fait qu'il y a un but de la vie qui est au-delà de ces quatre.
Pachama Purusharta, the fifth goal of life,
c'est le cinquième but de la vie qui est même au-delà de la libération. Et qu'est-ce que c'est le but?
Srimad Bhagavatam Pramana Mamalam Prema Pumarto Maha. That fifth goal of life,
ce cinquième but de la vie qui est le but ultime de la vie, est établi par le Srimad Bhagavatam.
C'est Pumarto love,
l'amour.
So that's interesting. You can be beyond the material energy.
Donc c'est intéressant, on peut être au-delà de l'énergie matérielle, mais pas avoir développé le pur amour. C'est intéressant comme point. Il y a beaucoup de gyanis, de personnes sages qui ont compris qu'ils sont une âme spirituelle et ils sont au-delà de l'énergie matérielle, mais ils n'ont pas forcément de l'amour pour Krishna. Donc c'est pas quelque chose d'ordinaire de développer de l'amour pour Krishna, mais c'est ça la libération suprême. Prabhupada écrit dans la teneur rapportée, dans le Shrimad Bhagavatam 6.14.5, il est dit:
Ô grand sage
de toutes les personnes libérées, des milliers de personnes libérées et des milliers qui ont atteint la perfection, celui qui est un dévot de Narayana est très très rare. En effet, il est le plus parfait et paisible. Donc jusqu'à ce qu'on soit connecté à Krishna dans une relation d'amour, il y a toujours un sentiment que quelque chose manque. Il y a un vide dans notre cœur, il manque un morceau, et ce morceau qui manque, c'est Krishna. Et donc jusqu'à avant, tant qu'on n'a pas l'amour de Krishna, on se sentira toujours incomplet. Et donc Mahaprabhu dit que la personne libérée la plus élevée, c'est celle qui a l'amour. Est-ce que quelqu'un a des réflexions ou des commentaires sur ce point-là? Des questions? Pourquoi est-ce que Krishna attend toujours le dernier moment avant d'apparaître? Pourquoi est-ce que Krishna vient toujours au dernier moment? Donc par exemple, Draupadi, elle se fait enlever son sari et à la dernière minute il vient. Ou Prahlad Maharaj, il a été lancé d'une falaise et il n'a pas été sauvé en haut, il a été sauvé en bas de la falaise.
Krishna, whatever he does, he
tout ce que fait Krishna, il le fait pour sortir plus d'amour du cœur du dévot. Quand on est plus désespéré, quand on est plus dépendant, quand on a ce sentiment qu'il n'y a rien d'autre dans la vie, c'est là qu'il y a l'amour le plus profond qui se manifeste. Et donc, parfois, Krishna, il crée une situation. Donc, comme on a parlé l'autre jour, donc Krishna commence à enlever d'autres options. Et quand on n'a plus d'autres options et qu'on se rend compte que notre seul refuge c'est Krishna, et là on pleure et on l'appelle, la relation est beaucoup plus profonde et plus intime. Et on peut dire, on dirait que c'est Krishna qui nous force. Krishna, il nous force dans une situation où on n'a aucune autre option. Mais ce n'est pas exactement comme ça. Ce que Krishna a fait, c'est qu'il voit que déjà le dévot, il a de la dévotion. Prahlad Maharaj avait de la dévotion. Et ce que Krishna a fait, c'est qu'il a fait une situation pour intensifier la dévotion. Et donc, dès qu'on rentre dans la conscience de Krishna, ça devient une vie très dramatique. Dès qu'on montre un petit peu d'intérêt en Krishna, on fait un pas vers Krishna, il fait 10 pas vers nous, donc il devient très impliqué dans notre vie, dès qu'on montre un peu d'intérêt. Et des fois, il vient à la dernière minute dans des situations pour intensifier notre amour. Parce que notre amour est encore divisé, il est divisé en d'autres endroits. Donc le nom, c'est la conscience de Krishna.
Donc,
j'essaie de comprendre. Donc elle dit, pourquoi est-ce qu'on dit la conscience de Krishna? Est-ce que Krishna c'est une conscience ou c'est une personne? Mais on dit que le monté sur l'autel c'est Krishna. Donc est-ce qu'on ne peut pas voir Krishna partout, dans la nature, dans les gens? Mais c'est une personnification de Krishna aussi, donc comment est-ce qu'il peut être partout et être une personne en même temps? Donc, une fois, il y a trois personnes qui voulaient savoir ce que c'était un train. Et donc, ils sont allés à la gare. Et il y a un train qui est arrivé. Et ils ont vu la fumée et la, le point. Et il y a une personne qui a dit, « Oh, regarde, un train, c'est de la fumée et du bruit. » Et après, le train est rentré. Et après, la deuxième personne a dit, « Ah, mais moi, je sais ce que c'est un train. C'est de la fumée, du bruit, mais il y a aussi des compartiments. » Et la troisième personne, il a dit, « Ah, mais non, un train, c'est de la fumée, du bruit, des compartiments et des gens à l'intérieur qui vont d'un endroit à l'autre, qui sont portés par des compartiments qui émanent de... la fumée et du bruit. Donc, qui avait raison? Tous les trois avaient raison. Tous les trois avaient raison parce qu'ils avaient tous compris quelque chose de ce que c'était un train. Mais on comprend tous que celui qui a attendu le plus longtemps a compris le train dans sa forme la plus complète. Donc similairement dans le Srimad Bhagavatam, il est dit la vérité absolue est réalisée de différentes façons. Donc la vérité absolue est une énergie omniprésente qui est présente dans tous les atomes, tout autour de nous. La vérité absolue est aussi dans le cœur de chacun. Et la vérité absolue est aussi une personne en lui-même avec qui on peut avoir une relation directe. Et sont tous des aspects de la vérité absolue, mais la personne est la source de tout le reste. Donc la personne de Krishna, Krishna qu'on voit sur l'autel, Krishna à qui on peut parler, Krishna pour qui on peut chanter, Krishna à qui on peut offrir des biscuits, ce Krishna est la forme de Krishna dont tous les autres aspects émanent. Et quand on va voir ce Krishna-là, on fait l'expérience de la connexion la plus complète. Donc, oui, on peut vénérer Dieu en tant qu'énergie, on peut vénérer Dieu dans toutes les autres personnes, et on peut aussi faire ça. Mais quand on approche Krishna dans sa forme personnelle, on ressent l'amour. Est-ce qu'on peut aimer une énergie? C'est pas facile. L'amour, ça veut dire des échanges, ça veut dire une personnalité. Donc, il faut engager ça avec un autre individu. Et donc c'est pour ça que l'aspect personnel de Dieu est la compréhension la plus avancée de l'absolu. Donc elle demande, est-ce que Krishna a pris la forme de Shiva? Donc si on adore Shiva, est-ce qu'on aime Krishna? Donc oui, Krishna, il prend beaucoup de formes. Il vient en tant que Ram, Nishinga. Et dans ces formes, on peut aussi vénérer Dieu. Mais Krishna est quand même spécial. Parce que en Krishna, il y a une exposition complète de toutes les qualités de Dieu. Toute la douceur, tout le charme, toute la personnalité de Dieu est complètement montré, complètement présenté par la personne de Krishna. Et quand on approche Krishna, on a accès à toute l'opulence divine qui est dans la personnalité de Dieu. Mais dans les autres formes, Krishna ne présente pas forcément toutes ces qualités-là. Comme on dit parfois, Dieu au travail est Vishnu et Dieu à la maison, c'est Krishna. Donc c'est toujours Dieu, donc Vishnu est Dieu quand même. Mais il est Dieu au travail, Dieu au bureau. Et quand on voit quelqu'un au bureau, on ne voit pas la personnalité complète, ils sont dans un rôle. Il y avait un homme politique qui allait en Inde et il est revenu et il avait une réunion. Et avant de commencer la réunion, et tout le monde lui dit « Ah, mais tu viens de revenir de l'Inde, dis-nous quelque chose que tu as appris. » Donc il a réfléchi un instant et il a dit « En Inde, j'ai appris que Krishna est certainement Dieu. » Et nous avons dit « D'accord, comment est-ce que tu es arrivé à cette conclusion ?» Parce qu'à chaque fois que je voyais une photo de tous les dieux différents, certains méditaient, d'autres géraient l'univers, d'autres faisaient des austérités. Mais quand on voit Krishna, il est juste en train de s'amuser. Il est partout en train de s'amuser, en train de profiter. Donc, il a réalisé que Krishna doit être Dieu parce que la personne qui est sur le dessus n'a pas de travail à faire. Si elle est vraiment sur le dessus, elle n'a pas de travail à faire. Donc, Krishna a beaucoup de noms. Rasaraj, ça veut dire le roi de toutes les relations.
Raseshwar, Rasabihari, Rasika Shekhar, Rasika Rai, and Rasabihari.
Et le nom commun, le mot commun de tous ces noms, c'est rasa. Rasa, c'est un mot magnifique. On ne peut pas vraiment le traduire en anglais. Mais si on essayait de le traduire, ou de l'expliquer, ça veut dire beauté, goût, charme, intimité, délecté, douceur. Voilà, Krishna, c'est ça. Et voilà ce qu'on cherche. Donc c'est pour ça qu'on vénère Krishna. Une fois, Prabhupada faisait un débat avec des philosophes. Avec des philosophes qui font les tests IQ. Si vous connaissez, c'est des tests pour savoir l'intelligence. Et donc, ils faisaient un débat avec Prabhupada. Et quand ils sont partis, Prabhupada a regardé ses disciples et a dit « Oh, tellement d'arguments, tellement de débats. » Mais bon, moi j'accepte Krishna parce que Krishna, il est tellement gentil. Il est juste gentil. C'est ça la conclusion, qu'après qu'on ait tout fait et tout entendu, on veut juste approcher quelqu'un qui est magnifique, qui est attirant. Et Krishna, il peut attirer notre cœur comme personne d'autre. Donc c'est pour ça qu'on veut voir Krishna.
Non, just the Krishna.
Tu veux dire en français?
Okay. En fait, je me disais, c'est comment dire, nous on est une âme et on n'est pas notre corps est humain. Et en fait, j'ai l'impression, quand je vois les représentations de Krishna, il fait beaucoup de choses comme des humains, pas comme moi quand j'ai une image de Dieu, après c'est peut-être par rapport à ce que j'ai appris, j'ai une image de Dieu. qui fait peut-être autre chose, qui a peut-être une autre apparence. Et quand je vois ça, j'ai l'impression des fois que c'est plus des histoires pour qu'on puisse s'identifier. C'est ce qu'une partie de moi se dit. Et donc du coup, je me dis que si on est notre âme, on est peut-être autre chose. Et donc du coup, c'est pour ça que des fois, je suis un peu bloqué des fois avec tout ça, parce que je me dis que, par exemple, pour moi, s'il y a Krishna, s'il y a Dieu, il fait des choses plus grandes, c'est dans mon imaginaire, donc c'est la réflexion que je me faisais.
So he's saying that we're a spirit soul and we're in a human body, and Krishna also has like a human form, and he's doing so many things like we would do. So he's just wondering, if he's God, then why is he doing things like humans? Is it just so we can relate to him? If he's God, shouldn't he be doing extraordinary things, like that was his conception before, doing things that we can't do? That's what I understood.
So there is a concept known as anthropomorphism.
Donc il y a un concept qui s'appelle anthropomorphisme.
Anthropomorphism is when people make the argument.
L'anthropomorphisme, c'est quand on fait l'argument que on projette ce que nous on a sur Dieu.
And therefore they say God is an imagination.
Et donc ils disent que Dieu, on imagine. Parce que j'ai deux bras, deux jambes, deux yeux. Alors je projette ça sur Dieu et je dis, ben Dieu aussi a deux bras, deux jambes, deux yeux. Mais en fait, on est juste en train de projeter ce que nous on a sur Dieu. Et du coup, ils disent que non, Dieu il ressemble pas à ça parce qu'on fait simplement projeter ce que nous on a. Mais en fait, la réalité, c'est dans l'autre sens. Nous avons deux bras, deux jambes, deux yeux, parce que, comme ils disent dans la tradition chrétienne, l'homme est fait en l'image de Dieu. Donc nous, on a tendance à penser qu'on est au centre. Et après, on regarde Krishna et on dit, ah oui, Krishna, il est comme moi.
But actually, it's the other way around.
Mais en fait, c'est dans l'autre sens.
We are like this because we are ultimately emanating.
Nous, on est comme ça parce qu'ultimement, on émane de Krishna.
And yes, we have form.
Et oui, on a une forme, et Dieu aussi a une forme.
And we have form because form.
Et on a une forme parce que c'est ce qui permet d'avoir des relations. Et les relations facilitent l'amour.
And that's why Krishna comes to the world and does.
Et donc c'est pour ça que Krishna il vient sur la terre et qu'il fait des choses différentes. Il a des activités. C'est pour ça qu'il a une famille. C'est pour ça qu'il a des relations. Parce qu'ultimement il veut accroître l'amour et avoir des relations d'amour. Et si on y réfléchit un petit peu, l'amour c'est ce que tout le monde cherche. On en a parlé hier. Mm-hmm.
Très bien.
Donc, il dit qu'on peut être au-delà de ce monde, mais pas être en relation avec Krishna. Mais est-ce qu'on peut être dans cette nature matérielle et relationné avec Krishna? En relation avec Krishna.
Donc
oui, dans un texte ancien écrit par Rupa Goswami, il dit si notre mental, nos mots et nos activités sont toutes situées en spiritualité parfaite, en connexion avec Dieu, alors même en vivant dans ce monde, on n'est pas en fait, on ne fait pas en fait partie de ce monde. Donc le mot sanskrit, c'est Jivan Mukta. C'est vivant mais libéré. Et donc, le dévot, il habite toujours à Vrindavan, en fait. Parce que Srila Prabhupada, il habitait à Vrindavan, il a expliqué hier le Bowery, l'endroit où il vivait à New York. Il y avait des rats partout, des gens intoxiqués, il faisait froid, il faisait humide, c'était horrible. Mais quand il était à cet endroit-là, il a dit non, moi j'habite à Vrindavan. Dans sa conscience, il habitait à Vrindavan. Donc oui, on peut être dans ce monde, mais si on a cet amour, alors on est dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde. Et de cette manière, ils sont ici, mais ils ne sont pas vraiment ici. Donc oui, c'est très possible. Il a dit, essayons alors. Donc c'est ça relate, enfin ça a quelque chose à voir avec ta question. Donc on dit qu'on est fait dans l'image de Dieu, et donc on a tendance à chercher qu'est-ce qui était au début. Dieu était là, il nous a fait en son image. Mais après on lit dans la Bhagavad Gita qu'il n'y avait jamais un moment où on n'existait pas ou que Krishna n'existait pas. Donc c'est dur à comprendre qu'avant l'univers il y avait Dieu et avant Dieu il y avait Dieu. C'est dur à comprendre qu'il y avait quelque chose qui était déjà là. Et donc il disait l'autre jour, il expliquait que les mots ne sont pas suffisants pour exprimer des choses. Donc la question de Vidura, c'est dans un sens, on est tous éternels. On est tous éternels. Il n'a pas l'air convaincu.
On another hand, we come from Krishna.
Mais de notre côté, on vient de Krishna. T'es d'accord? Oui.
So how can you be eternal?
Mais comment est-ce qu'on peut être éternel et en même temps venir de Krishna?
Come from indicates.
Venir de, ça indique que on est venu de.
Which means you weren't before.
Qui veut dire qu'on n'était pas avant. Et si on n'était pas avant, alors comment est-ce qu'on peut dire qu'on est éternel? Donc c'est ça la question.
It's kind of like this.
Donc c'est un peu comme ça.
Do the sun rays come from the sun?
Est-ce que les rayons de soleil viennent du soleil?
Yeah. Can you have sun without sun rays?
Est-ce qu'on peut avoir un soleil sans des rayons du soleil?
Maybe.
Peut-être.
So my first question was, do sun rays come from the sun?
Donc est-ce que les rayons de soleil viennent du soleil? Oui. Est-ce qu'on peut avoir le soleil sans des rayons de soleil? Non. Il a dit oui si on le dessine, le soleil. Non.
Donc, there must be sun rays.
Si il y a du soleil, il faut qu'il y ait des rayons de soleil.
Mais
les rayons de soleil viennent du soleil. On ne peut pas dire que le soleil vient des rayons du soleil. Mais on peut dire que les rayons de soleil viennent du soleil. Mais en même temps, on ne peut pas avoir un soleil sans les rayons du soleil. Donc c'est le même concept. On vient de Krishna. En même temps, on est éternel.
Donc,
sur un niveau, dans la langue de anglaise, ça, enfin française, on dirait que c'est des concepts qui s'excluent mutuellement. Mais en fait, dans une autre réalité, les mots qu'on a ne sont pas logiques. Donc le Bhagavatam dit que la logique et les arguments ne sont pas suffisants pour comprendre la vérité absolue. Le philosophe, il a demandé à Prabhupada. Donc, il veut nous demander, Bruno, est-ce que Dieu peut créer une pierre si lourde qu'il ne peut pas la lever, la soulever? Bruno, il dit non. Donc là, tu es en train de dire qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas créer.
If there's something that God can't create,
mais s'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas créer, comment est-ce qu'il peut être Dieu? Est-ce que tu comprends? Donc maintenant, il va te redemander, est-ce que Dieu peut créer un rocher si lourd qu'il ne peut pas le soulever? Oui.
But then you're saying there's something that God can't carry.
Après, tu es en train de dire qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas porter. Donc, quelle était la réponse de Prabhupada?
Anyone remember? Yes. Yes.
God can do whatever.
Non, Prabhupada a répondu.
Yes, God can create it.
Dieu, bien sûr, Dieu peut le faire. Et après, il peut le soulever aussi. Il peut le soulever aussi. Donc, il peut créer quelque chose qui est tellement lourd qu'il ne peut pas le soulever. Et après, il le soulève. Donc, il peut tout faire. Qu'est-ce qu'il peut comprendre? Et du coup, il savait pas quoi dire en réponse à ça. C'est comme c'est un argument philosophique très ancien. Ça s'appelle le problème des rochers. Et ils ont dit ah voilà, on a un truc que Prabhupada va pas pouvoir répondre. Et il a pu répondre. La puissance et la gloire de Dieu s'étend à chaque instant. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, notre problème de base, c'est que nos facilités pour comprendre la vérité absolue ont des fautes. Ça s'appelle l'épistémologie en philosophie. L'épistémologie, c'est la façon dont on connaît les choses. Et donc, Prabhupada explique toujours que la perception sensorielle et le mental ne sont pas des outils appropriés pour percevoir la vérité absolue. Ça ne veut pas dire que la vérité absolue n'est pas scientifique. Elle est scientifique, mais il faut utiliser une dimension supérieure. Comme parfois, les gens ils disent, je vais seulement croire en Dieu si je peux le voir.
This is actually such a terrible argument.
C'est un argument ridicule.
It's like saying, okay,
c'est comme de dire.
Here is a thermometer.
Ok, ici, voilà un thermomètre.
And with this thermometer,
et avec ce thermomètre,
I want you to weigh how heavy this book is.
Et je veux que tu pèses ce livre avec le thermomètre.
What's your problem?
C'est quoi ton problème? Le thermomètre, c'est un instrument scientifique. Alors maintenant, pèse ce livre avec le thermomètre. Pourquoi c'est difficile? C'est un instrument scientifique. Pourquoi c'est difficile? Et parce que c'est pas le bon instrument. C'est le mauvais instrument.
Donc,
si quelqu'un dit « Je veux voir Dieu avec mes yeux », tu peux dire « Oui, tu peux voir Dieu, mais il faut utiliser le bon instrument. » C'est un argument tellement élémentaire, mais les gens ne comprennent pas. Donc voilà. Donc, Prabhupada n'a jamais présenté la conscience de Krishna comme une religion. Jamais, jamais comme une religion. Il a toujours dit, c'est une science spirituelle. C'est une science. Ça veut dire quoi la science? Hypothèse, expérience, observation. Donc les Écritures donnent une hypothèse. C'est à vous de décider si vous voulez faire l'expérience et après vous aurez la perception directe vous-même. Donc Prabhupada dit que cette philosophie vous amène face en face de Dieu, face à face. Il dit ça c'est... C'est très. C'est une grosse assertion. Les autres philosophies ne disent pas ça. les autres philosophies elles disent croyez ça et puis vous comprendrez plus tard. Les autres religions, c'est basé sur la foi aveugle, pratiquement. Ça, c'est un point important des Écritures. Dans beaucoup des théologie, le but c'est d'avoir la foi, le but ultime c'est ça. Et dans la conscience de Krishna, et dans la conscience de Krishna, il y a 9 étapes, et le premier c'est la foi. Donc c'est pas le but, c'est le début en fait. Là.
Prema anda yudamchati sadhakana mayam premna sadur bhave bhavet krama. These are the 9 stages.
Voilà les 9 étapes. Et la foi, c'est juste le début. Au début, il faut avoir la foi. Sadhu Sangha.
What's the next stage?
Sadhu Sangha. La deuxième, c'est Sadhu Sangha, c'est de prendre la compagnie des personnes spirituelles. Et après, quand on prend la compagnie des dévots, après, ils nous diront Bhajana Kriya, fais un chant. Lit, fait du service, et quand on fait ces choses-là, du service, la lecture, des activités spirituelles, qu'est-ce qui se passe en face? Anartha Nivritti, ça veut dire que toutes les choses qui sont indésirables dans le cœur disparaissent. Et après Anartha Nivritti, qu'est-ce qui se passe?
Nishta.
Ça veut dire qu'on a de la conviction. Mon Dieu, ça marche, c'est vrai. Mais ça ne s'arrête même pas là.
Nishta is where then it becomes really interesting.
C'est à Nishta que ça commence à devenir vraiment intéressant. Parce que après Nishta, c'est quoi?
Ruchi.
Ruchi, c'est le goût. On a un goût. Et une fois qu'on a ce goût, quand ce goût devient plus concentré, ça devient Ashakti. Et ça, c'est l'attachement. On ne peut pas vivre sans. Addiction. Une bonne addiction. Et après, quand la Shakti devient plus intense, Bhava, c'est l'émotion, des émotions très profondes qui viennent du cœur. Et quand Bhava mature, devient mature, c'est prema, l'amour pur. C'est incroyable. C'est pour ça que quand on sort et qu'on dit aux gens d'une façon très humble que cette théologie est la plus élevée du monde, c'est pas par fierté qu'on dit ça. C'est pas parce que on essaie d'établir quelque chose, mais non, c'est un fait. C'est la théologie la plus avancée parce que c'est ce qui développe l'amour le plus pur. Et la foi, c'est juste le début. Il a dit, moi j'avais juste le thermomètre, c'est pour ça que je galère. On a le mauvais instrument. Est-ce qu'on peut retourner à Dieu si notre but c'est Anartha Nivritti, c'est-à-dire si on ne dépasse pas le stade de Anartha Nivritti, c'est-à-dire de retirer les choses indésirables? Il
n'y
a qu'une qualification pour retourner à Dieu. Qu'est-ce que c'est? Il lui a dit, c'est de ne pas être qualifié. C'est la misère. Desire, non? Ah non. Le seul truc, c'est d'aimer Dieu. Est-ce que l'amour peut être dans un cœur où il y a encore de l'égoïsme? Mélangé, oui. Mais c'est encore mélangé, donc c'est pas de l'amour pur. Donc il ne peut pas l'avoir de l'amour pur dans un endroit où il y a encore de l'égoïsme. Il faut dépasser ce stade. Il faut dépasser ce stade. Et ça, c'est l'étape la plus difficile. Ce n'est pas facile du tout. Et quand on fait un Anartha Nivritti, on commence à se réaliser qu'il y a beaucoup plus de choses dans notre cœur qu'on ne savait.
Ouais.
Donc il dit, je ne sais pas comment vous sentiez, mais lui, quand il est venu au mouvement de la conscience de Krishna au début, dans toutes les classes, les dévots parlaient de la concupiscence. Concupiscence, le désir sexuel, la concupiscence, le désir sexuel. Et il disait, pourquoi est-ce que les gens parlent du sexe tout le temps? C'est quoi leur problème? Il faut se relaxer, c'est quoi ce problème? C'est pas un gros truc comme ça. Dans toutes les classes, ça parlait de ça. Il y avait toujours un truc sur le désir sexuel.
Like I was thinking, like,
et il se disait, mais
even when I'm like doing all my material activities,
mais même quand je fais toutes mes activités matérielles, j'entends pas autant parler de ma vie sexuelle que quand je suis au temple.
Donc,
il s'attendait pas à entendre parler de la vie sexuelle dans le temple. Alors il dit, mais pourquoi est-ce que c'est un si gros truc pour eux? Et là, en pratiquant, tu comprends, mon Dieu, toutes ces choses dont il parlait, que je pensais que j'avais pas vraiment ou que j'avais pas à faire attention, ça commence à monter à la surface. Juste quand on est dans une pièce, elle semble propre, mais quand on commence à enlever la poussière, il y a beaucoup plus de saleté qui sort qu'on s'y attendait. Et quand tu es à moitié du nettoyage, la pièce a l'air plus sale que lorsqu'on a commencé. Et on s'est dit, mon Dieu, mais ça marche pas, c'est quoi ce truc? Mais d'abord, il faut que ça monte à la surface. Donc, anartha nivritti, c'est que ça vient tout à la surface d'abord. On pensait pourtant qu'on était des gens bien. Et après, on passe quelques jours dans le temple et on se rend compte, oh mon Dieu, je suis envieux, je suis coléreux, je suis avide. Donc, ça sort. Donc oui, ça prend longtemps. Mais c'est comme une montagne. Les sadhu sangha, ça commence, les problèmes commencent déjà après Vajna Krishna. Et là, anartha nivritti, ça commence vraiment à être rude, raide, la montagne. C'est tellement raide, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer. Mais d'une façon ou d'une autre, si on continue et qu'on arrive tout en haut de la montagne, Nishta. Et là, on est fixé sur le haut de la montagne. Et après, on peut faire fou. Respirer, attraper son souffle. Et là, Ruchi, Achakti. C'est comme de voler après. Donc oui, ça prend du temps, c'est normal. Il écrit un journal intime. Il pensait jamais être quelqu'un qui écrivait un journal imprimé. Il pensait que c'était un truc que les filles adolescentes faisaient. Mais quand il a joint le temple, il y a un dévot qui lui a dit, oh, tu devrais écrire un journal intime de tes pensées, tes sentiments, ce que tu observes en toi. Donc il a commencé à le faire. Et il a continué d'une façon ou d'une autre pendant 20 ans. Il l'a sur son ordinateur protégé avec un mot de passe. Il y a des centaines de pages. Mais une chose intéressante, c'est que ce qu'il fait le soir, c'est qu'il ouvre son journal.
And I say like, okay. 30th of November today?
Il dit, ok, 30 novembre.
30th of November, 10 years ago.
Et là, il regarde 30 novembre, il y a 10 ans. Et je vais regarder ce que j'ai lu, je l'ai écrit il y a 10 ans. Et là, le 30 novembre, il y a 20 ans, qu'est-ce que j'étais en train de vivre? Et c'est fascinant. Des fois, c'est déprimant aussi. On disait, oh là là, j'étais plus sincère et plus avancée avant que je le suis maintenant. Mais une chose qu'on réalise, c'est les choses comme l'envie, la fierté, l'arrogance, la concupiscence. Ça prend vraiment très longtemps parce que c'est enraciné très profondément. Donc cette histoire de Jad Bharat, il était sur la plateforme de Bhav et il est devenu attaché à un cerf. Donc qu'est-ce qu'on doit apprendre parce qu'il avait passé anartha nivritti? Donc, est-ce que même jusqu'au niveau de Bhav, on a encore des anarthas? Donc, il va juste expliquer l'histoire parce que tout le monde ne connaît peut-être pas. Il y avait un grand roi qui s'appelait Bharat. Il avait tout, il avait l'opulence, il avait vraiment tout, la position. Il était très très sincère. Et à la fin de sa vie, il s'est rendu compte qu'il devait réaliser Dieu. Donc, il a tout donné et il est allé.
Pulaha Ashram, which is today Gandaki. I don't know if anyone has ever been to Nepal.
Au Népal.
In Nepal, there's a Gandaki River.
Et la rivière Gandaki au Népal.
Anyway, he went to
Et donc, il est allé à cet endroit-là.
Et
il a décidé de s'engager pleinement dans la pratique spirituelle. Et donc, il était de plus en plus haut. Il a passé l'anartha nivritti, passé nishtha, pakriti, à Shakti, et il est arrivé au niveau de Bhava. C'est sur la route descendante, il volait déjà. Et puis un jour, il a vu qu'il y avait une biche qui était enceinte, et il y a un tigre qui lui courait après. Et elle a sauté par-dessus la rivière, et le tigre, il a crié, et du coup, elle a accouché dans la rivière, mais après, elle est partie, et son bébé, il était dans la rivière, et la mère, après, elle est partie, parce qu'elle a cru que son bébé était mort, donc elle est morte, et après, donc lui, il a vu ce petit cerf, se fend dans la rivière et donc il a dit oh, mais personne ne va pouvoir le sauver, personne ne s'en occupe, il faut que je m'en occupe, il faut que je le protège. Donc il a commencé à le nourrir, à s'en occuper et il est devenu attaché. Et il y a deux choses qui lui sont arrivées. Donc maintenant on va comprendre. Et ben, la conclusion de l'histoire, c'est qu'à la fin de sa vie, il a pensé à son cerf, donc il est revenu dans la corde de cerf. Donc la question, c'est qu'il était sur une plateforme spirituelle tellement élevée, pourquoi est-ce qu'il est tombé comme ça? Donc il y a deux réponses. La première réponse, c'est que pour qu'il s'occupe du cerf n'était pas une mauvaise chose, mais le problème, c'est que pendant qu'il s'occupait du cerf, il a négligé sa pratique spirituelle. Donc le fait qu'il ait négligé sa pratique spirituelle, il aurait quand même pu s'en sortir. Mais la façon de s'en sortir, il n'avait pas l'opportunité parce que la sortie, c'est que quelqu'un le corrige. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas la compagnie des dévots. Donc c'était ça le deuxième problème. Donc ce que Vishwanath Chakravarti explique, c'est que anartha nivritti, en fait, c'est seulement complètement fini au stade de Prema. Donc pourquoi est-ce qu'on dit qu'après anartha nivritti, on a